Et voici Sophie Delpont pour Le Journal. Bonjour Sophie.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Il avait fait de la littérature une arme pour toucher le cœur des hommes et pour faire bouger les consciences. Amos Oz, très célèbre écrivain israélien, grand défenseur de la paix, s'est éteint hier à l'âge de 79 ans. Dans ce journal, nous entendrons la voix de cet homme profondément engagé.
La nouvelle affaire Benalla ou le retour du cauchemar de l'Élysée avec une confrontation hier par médias interposés.
Oui, le retour de l'ancien chargé de mission sous les projecteurs de l'actualité avec l'affaire des passeports diplomatiques est un nouveau coup dur pour Emmanuel Macron, alors qu'Alexandre Benalla dément la version donnée par le Quai d'Orsay. Analyse dans un instant. Alors que votre invité Benoît est l'économiste Jean-Marc Daniel.
Oui, l'économiste Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP Europe et auteur de Macron, la valse folle de Jupiter. On parlera économie avec lui et on aura une vision sur 2019.
Et dans ce journal, nous irons aussi en RDC. Alors que le pays doit voter demain pour la succession de Joseph Kabila, les observateurs craignent un potentiel bain de sang après le scrutin. Reportage sur place de notre correspondant. Nous irons aussi en Égypte, après la mort de trois touristes et de leur guide, tués dans l'explosion d'une bombe près des pyramides de Gizeh. Et puis une surprise à suivre en fin de journal. Sa voix était celle d'un écrivain ardent défenseur de la paix, considéré comme une légende de la littérature israélienne. L'écrivain Amos Oz s'est éteint hier à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer. Couronné par plusieurs grands prix littéraires, il n'avait pourtant jamais reçu le prix Nobel malgré son engagement, Sarah Cosolino.
Et pourtant, Amos Oz avait décidé d'être conducteur de tracteur dans un kibboutz à l'âge de 15 ans, une rébellion contre le monde des livres qu'incarnait son père. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'il décide de changer le nom qu'il a de son père, Klausner, pour adopter celui de Oz, force, courage en hébreu. Mais il finit par revenir vers la littérature et publie son premier roman en 1966. Il ne s'arrêtera jamais d'écrire et obtiendra de nombreux prix littéraires, comme le prix Femina étranger en 1988 pour La boîte noire. Amos Oz se définit comme un lecteur insatiable, avouant qu'enfant, il aurait préféré être un livre plutôt qu'un écrivain. Écoutez justement comment il parlait de l'effet d'un livre sur son lecteur à Christophe Onodibio, c'était en 2016 sur France Culture.
Je pense que lorsque nous lisons un bon livre, nous recevons parfois une paire d'yeux et une paire d'oreilles supplémentaires. Nous regardons la millième fois quelque chose que nous connaissons déjà. Et nous le voyons à ce moment-là pour la première fois. C'est ça le don, le cadeau de la littérature.
Amos Oz est aussi une figure politique. Il était notamment le cofondateur du mouvement La Paix Maintenant et partisan d'une solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Il a participé deux fois à des conflits armés, la guerre des Six Jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973. Mais il tenait à ce que l'on distingue son engagement politique de son œuvre littéraire.
Sarah Cosolino, de 17h à 18h sur France Culture, à suivre ce soir Le Temps des Écrivains, Christophe Onodibio. Une rediffusion d'une émission spéciale consacrée à Amos Oz, rediffusion d'une émission datant du 1er octobre 2016. C'est une forme de cadeau de Noël empoisonné dont se serait bien passé l'Élysée. Le retour de l'affaire Benalla, ou plutôt un nouvel épisode après son licenciement cet été, l'affaire des passeports diplomatiques. Deux questions demeurent au cœur de cette nouvelle polémique. Pourquoi l'ancien chargé de mission dispose-t-il toujours des passeports diplomatiques et les a-t-il utilisés pour des voyages d'affaires auprès de dirigeants africains? Le ministère des Affaires étrangères a saisi hier le procureur de la République de Paris et dans un courrier, le ministre Jean-Yves Le Drian signale les agissements de M. Alexandre Benalla en application de l'article 40 du Code de procédure pénale selon ce courrier. Le ministre évoque un possible abus de confiance en raison de l'absence de restitution des passeports et un possible usage abusif de ces derniers, Nathanaël Charbonnier.
Coup pour coup, Alexandre Benalla a décidé de ne rien lâcher. On l'accuse d'avoir voyagé avec des passeports diplomatiques. Il explique ne pas voir où est le problème puisqu'il continue d'entretenir des relations avec des membres de la présidence. Quelques heures plus tôt, son entourage avait laissé entendre qu'on lui avait remis ses deux passeports en octobre. C'est à ne plus rien y comprendre puisque le Quai d'Orsay, dans un communiqué, et preuve à l'appui, expliquait dans l'après-midi avoir envoyé deux courriers recommandés pour récupérer les fameux passeports, courriers adressés les 26 juillet et 10 septembre. Cacophonie y compris à l'Élysée, où l'on se dédouanait en expliquant avoir fait le nécessaire pour récupérer les documents diplomatiques. Cacophonie et mensonge, car dans cette histoire, tout le monde ne semble pas dire totalement la vérité. L'affaire Benalla est devenue indéniablement une affaire d'État.
Nathanaël Charbonnier. Alexandre Benalla en a, semble-t-il, assez de prendre des coups. Le voilà donc qui réplique dans un courrier, là aussi, adressé cette fois au directeur de cabinet de l'Élysée. De nouveau pointé du doigt pour avoir gardé ses passeports diplomatiques et s'en être servi lors d'un récent voyage au Tchad, l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron s'explique et fait même une révélation. Il n'a pas totalement coupé les ponts avec la présidence de la République, Jean-Jérôme Berthelust.
Il y a quelques jours, Alexandre Benalla affirmait qu'il ne se tairait plus hier. Il en a fait la démonstration fracassante, expliquant avoir fait parvenir un courrier à l'Élysée. Dans cette lettre, Alexandre Benalla écrit qu'il entretient toujours, je cite, « des échanges réguliers avec certains membres de la présidence ». Il affirme également que tout au long de ses activités officielles à l'Élysée, il n'a jamais effectué de mission personnelle et privée. En fait, Alexandre Benalla répond à Patrick Stroda. Le directeur de cabinet du président de la République lui avait adressé lui-même le week-end dernier une lettre avec copie au procureur de la République. Patrick Stroda mettait en garde dans cette lettre Alexandre Benalla précisément sur d'éventuelles activités qu'il aurait pu exercer en marge de ses responsabilités en matière de sécurité. Des activités qui pourraient avoir un lien avec les nombreux déplacements d'Alexandre Benalla en Afrique ces derniers mois. Hier soir, toutefois, l'Élysée affirmait n'avoir reçu aucun courrier de l'ancien chargé de mission.
L'opposition réclame la vérité sur cette nouvelle affaire Benalla, embarrassante pour le chef de l'État, déjà sous pression de la crise des gilets jaunes, alors qu'Emmanuel Macron doit exprimer ses vœux lundi pour l'année 2019. Pour décrypter l'évolution du quinquennat d'Emmanuel Macron, l'invité des matins du samedi est l'économiste Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP Europe et auteur de Macron, la valse folle de Jupiter. Bonjour.
Bonjour.
Alors, après les annonces faites pour calmer la colère des gilets jaunes, reste-t-il des marges de manœuvre à Emmanuel Macron? Et pourra-t-il entreprendre ses réformes, notamment celles de l'assurance chômage et des retraites?
Alors concernant les marges de manœuvre, c'est essentiellement les marges de manœuvre budgétaires auxquelles on doit penser. Et on voit bien que la France est en train de devenir le mauvais élève de la classe européenne. C'est-à-dire on va dépasser ou tangenter les 3% de déficit, qui sont un des symboles forts de la politique budgétaire en Europe. Et d'une façon plus générale, on peut considérer que les promesses faites par Emmanuel Macron à l'égard de ses partenaires, que ce soit les partenaires européens, ou même au niveau mondial. Il s'était fait aussi le champion de la COP21, le champion du combat contre le réchauffement climatique. Tout cet aspect-là a été passé à l'as et on voit mal comment il pourrait reconstituer effectivement son image s'il continue à dépenser, à remettre en cause la taxe carbone, à remettre en cause la politique qu'il a initiée sur le prix du carbone. Donc je pense qu'il est au bout de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il peut faire. Et d'ailleurs les revendications commence à devenir assez flou, donc on voit mal aussi comment répondre à des revendications qui deviennent de plus en plus floues. Alors concernant ces réformes, juste deux remarques, je pense qu'il y a deux réformes qui sont essentielles pour lui, c'est effectivement l'assurance chômage, sur laquelle il a là aussi rabattu beaucoup de ses ambitions par rapport à son programme, et surtout la retraite. Et sur la retraite, ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'arrête pas de différer les annonces. On voit bien que il va falloir faire des choix assez douloureux.
Des choix qui sont trop politiquement dangereux aujourd'hui, avec la question des gilets jaunes.
Oui,
là, c'est le politique qui prend le pas sur l'économie quelque part. Au niveau de ces mesures annoncées par Emmanuel Macron, est-ce que en remettant de l'argent, on va dire, dans la poche de personnes modestes qui n'ont pas les moyens d'aller s'évader fiscalement, il y aurait pas quelque part un levier possible de croissance?
Alors on peut penser qu'il y a un levier de croissance, c'est la bonne vieille relance par la consommation. Ce qu'il faut constater quand même pour l'économie française, c'est d'abord que l'économie française vit au-dessus de ses moyens. C'est déjà ce qu'annonçait Raymond Barre dans les années 80 face au programme de la gauche.
François Fillon aussi d'un État en faillite.
Voilà, absolument, oui. Donc l'État vit au-dessus de ses moyens et la France globalement vit au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire la France a un déficit extérieur qui s'était en plus aggravé avec le choc pétrolier. On a vécu un choc pétrolier, même si maintenant on est plutôt en phase de contre-choc. Et donc distribuer du pouvoir d'achat, c'est menacer le pays d'avoir davantage encore d'importations et d'avoir encore davantage de déficit extérieur. Donc c'est vivre un peu au crochet de l'avenir. Et donc le véritable enjeu dans cette situation, c'est pas de distribuer du pouvoir d'achat en tant que tel, c'est de redistribuer du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui sont dans des situations difficiles, on va améliorer leur situation, mais ça veut dire que d'autres vont être obligés de faire des efforts.
Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, vous restez avec nous en studio pour la suite des matins de Benoît Bouscarel. Alors que les Gilets jaunes appellent à un acte 7 de leur contestation ce matin, de nombreuses images et récits de violences se sont multipliés ces dernières semaines. Violences de la part des manifestants, mais aussi violences policières. Et l'IGPN, la police des polices, est saisie de pas moins de 48 affaires de violences policières présumées lors de manifestations des Gilets jaunes et des lycéens dans un communiqué du ministère de l'Intérieur hier.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Direction maintenant la République démocratique du Congo, la RDC, qui retient son souffle en attendant les élections qui ont lieu demain, Sophie.
Oui, et la crainte d'un nouveau bain de sang dans cet immense pays dont les richesses naturelles sont pillées. Après presque 2 décennies au pouvoir, le président Joseph Kabila doit normalement quitter ses fonctions. Le vote doit avoir lieu demain, effectivement, mais les problèmes logistiques perdurent et beaucoup annoncent déjà que ces élections risquent de ne pas être crédibles. Partout dans le pays, le ras-le-bol vis-à-vis du régime Kabila s'amplifie. Sur place, le reportage de notre correspondant de France Culture en RDC, Anthony Fouchard.
Emmanuel Ramazani Shadary, le dauphin du président Kabila, peine à mobiliser les foules. Il n'a pas la verve d'Olive Kambe Kabila, la femme du président. C'est elle qui harangue la population lors des meetings, avec à chaque fois des arguments populistes.
Le commandement des Blancs, la colonisation, tout ça c'est fini. Le Congo a tout. Le Congo n'a besoin de personne. La domination, c'est terminé.
Les ressources de l'État ont été largement investies dans la campagne du candidat de la majorité. Dans les provinces, chaque gouverneur a endossé le rôle de directeur de campagne et largement distribué de l'argent pour attirer les foules.
On a payé les gens pour qu'ils soient ici. Ce n'est pas à dire qu'ils soient ici gratuitement, non. On n'est pas ici gratuitement.
Nous, le peuple congolais, on doit ouvrir les yeux pour voter. On ne devrait pas voter pour des t-shirts, pour des chapeaux, non. Nous ne sommes pas pour ça.
À Goma, par exemple, chaque mototaxi a perçu entre 5 et 10 dollars glissés dans des t-shirts à l'effigie de Shadary. Quant aux journalistes locaux, ils ont reçu près de 600 dollars en main propre d'Olive Kabila. Selon elle, un cadeau de fin d'année.
Anthony Fouchard, correspondant de France Culture en RDC. Après l'attaque probablement terroriste aux abords des pyramides de Gizeh qui a fait 4 morts, les professionnels du tourisme s'inquiètent des conséquences possibles sur le nombre de visiteurs en Égypte. Le tourisme y représente 14% du PIB, c'est l'un des piliers de l'économie du pays. Avant l'attentat, l'industrie, dont plusieurs millions de personnes dépendent, était en plein rebond. C'était d'ailleurs l'un des meilleurs hivers depuis la révolution de 2011 au Caire. Le reportage de François Hume.
Dans son taxi blanc, bonnet vissé sur la tête, Mustapha El Hadi, 28 ans, se désole déjà des conséquences possibles de l'attaque qui a eu lieu quelques heures plus tôt. Il en a déjà fait l'expérience dans le passé, le nombre de visiteurs chute et automatiquement son salaire baisse, pour lui qui a l'habitude de prendre des touristes dans son véhicule. Pourtant, dit-il, ses conséquences sur l'industrie du tourisme sont injustes.
Ce qui vient de se passer, ça ne représente pas l'Égypte. C'est simplement quelques personnes qui cherchent à détruire l'Égypte et à mettre en péril notre pays. Mais les Égyptiens en général adorent les touristes. Nous voulons les voir venir et revenir nombreux.
Juste en face de l'entrée du Sphinx, du site des pyramides de Gizeh, la librairie Taraka propose des livres d'images sur l'Égypte, des papyrus et autres souvenirs. Ici, on hausse le ton pour tenter d'expliquer qu'une attaque dans une ville de plus de 22 millions d'habitants est possible et déplorable, mais qu'elle ne doit pas dissuader les étrangers de visiter l'Égypte. Wali Adekré, l'un des vendeurs.
Des attaques comme celle-ci, ça arrive dans le monde entier, mais moi je vous dis que l'Égypte est un pays très sûr. Il y a la sécurité partout ici. Nous sommes ciblés parce que nous sommes un pays important, mais tout va bien. On travaille et on prend soin des touristes.
En 2017, 8,2 millions de touristes ont visité l'Égypte. Ils étaient près de 15 millions en 2010.
François Humperkataji. Une lueur d'espoir pour Mumia Abou-Jamal, journaliste afro-américain condamné en 1982 à la peine de mort, qui a échappé au couloir de la mort en 2011, mais qui reste toujours derrière les barreaux. Un juge à Philadelphie vient d'ouvrir la voie vers un nouveau procès. Et puis comme promis dans les titres, la petite surprise de fin de journal, puisque c'est Noël, Benoît Bouscarel, le Nunchaku est de retour à New York.
Ah oui,
il avait été interdit il y a près de 20 ans. Cette arme spectaculaire bien connue des amateurs de Bruce Lee avait été bannie en raison de la grande popularité des films. Et donc le Kung Fu dans les années 70 faisait des émules. Les autorités craignaient que l'objet n'envahisse les rues.
Ouais, il est un peu dangereux cet objet.
Oui, Sophie. Oui, mais vous allez voir, le reportage va venir. Un avocat passionné d'arts martiaux s'est battu pendant près de 20 ans pour renverser cette décision. Et il y a une dizaine de jours, une juge fédérale a mis fin à cette interdiction pour la plus grande joie de James Maloney que vous avez rencontré, Loïc Loury.
Il se dit lapin plutôt que dragon, pas d'acrobatie comme Bruce Lee. La posture de James Maloney, 60 ans, est purement défensive. Ce spécialiste du droit maritime a découvert le nunchaku il y a plus de 40 ans.
C'est super de pratiquer le nunchaku, c'est tellement amusant, comme une danse. C'est une danse. Vous pouvez développer vos aptitudes physiques, votre dextérité, votre coordination. C'est un sentiment magnifique. Mais ce n'est pas efficace pour briser le crâne de quelqu'un. Rien à voir avec une batte de baseball.
Une arme de défense pour laquelle il est arrêté quelques années plus tard, un crève-cœur. Il apprend alors l'interdiction de son objet fétiche à New York.
J'ai séparé les bâtons de la corde et depuis des années, je ne peux plus m'entraîner. Apparaître dans ma cave et taper sur un sac de boxe en faisant semblant de tenir mes nunchakus. Mais je ne peux pas les faire se balancer parce qu'ils ne sont pas vraiment dans mes mains.
Aujourd'hui, en attendant un éventuel appel, James Maloney est ravi mais avertit les futurs amateurs.
Maintenant que c'est légal, les gens pourraient penser qu'ils peuvent pratiquer n'importe où, en public, mais c'est faux. Cela reste une arme et on ne peut pas s'afficher avec. On risque de blesser quelqu'un.
Et pour ceux qui ne verraient toujours pas l'intérêt du nunchaku, c'est l'idéal, dit-il, pour éloigner les moustiques.
Je sais pas si vous avez déjà essayé Benoît Mouscarel. Bon, attention quand même, ne pas se blesser. Alors, au niveau de la météo aujourd'hui, grand soleil au bord de la Méditerranée, de la brume partout ailleurs, température comprise entre moins 2 et jusqu'à 11 degrés aujourd'hui. Moins 2 degrés, ce sera à Belfort, 0 degrés à Strasbourg, et jusqu'à 11 degrés, c'est pour Narbonne.
Merci Sophie Delpont. Les matins du samedi continuent. Nous partons à Jérusalem dans un instant.